Le peuple de la mer. Deuxième partie, chapitre 2. La veille était longue dans cette nuit de février, ténébreuse et calme. Le doux bruit grésillant de la mer environnait le phare, traversé parfois du cri en mineur d'un oiseau perdu. Piron astiquait des cuivres pour s'occuper. À une table, Semelin reproduisait sur un carton une Sainte Vierge avec des coquillages. La lampe de Jean-Baptiste, qui marchait sur ses chaussons, errait sans bruit par les chambres en réveillant les objets au passage. Semelin brassait par moments des coquilles pour en choisir une bleue, et puis se refermait le silence énorme où la mer grignotait les rochers au dehors. Tout à coup, une sonnerie éclata, stridente, à faire frissonner. Semelin gagna la tour où Piron montait déjà. Toutes les 3 heures, l'appareil appelle ainsi quand le contrepoids qui entraîne la lanterne est à bout de course. Dans la petite chambre des placards, sous le feu qui tournait au-dessus de leur tête, Semelin visita le mouvement, tandis que Piron relevait le poids. Il faisait tout avec la lenteur minutieuse des marins, sans parler, parce que la nuit rend les hommes taciturnes. Un moment encore, le vieux surveilla la rotation tranquille de la lanterne, tandis que Jean-Baptiste se penchait aux fenêtres, où son regard se heurta aux ténèbres drues. Il ne devina même pas la terre au-dessous de lui, ni le sémaphore où dormait la gaude. Il semblait que la mer battît directement les murailles de la tour, comme si, depuis hier soir, elle avait dévoré l'île. Pas d'étoiles non plus, pour faire un ciel à la nuit. Seulement l'océan, immense et formidable, parce qu'on le sentait, qu'on l'entendait sans le voir, avec des feux rouges de phare, vacillant en bas et très loin. Et le mystère et la peur dégagée par cette invisible présence troublaient vaguement l'esprit des hommes. Semelin écouta quelque temps le silence, avec ses sens subtils, comme ceux des bêtes, d'hommes qui vivent en pleine nature. Le phare tournait avec une régularité magnifique, éternelle, en fauchant les ténèbres. Par intervalles, les coups de bec d'un oiseau frappaient aux vitres, là-haut, comme un doigt. Satisfait, Semelin s'assit sur une marche de l'escalier de bronze, roula une chique et dit « Petit gars, je vais te conter une histoire. Parce qu'il est point bon de rester comme ça à entendre la tête vous sonner dans la nuit. C'est un vendredi 26 février, comme aujourd'hui, que mon aïeux a vu le voltigeur. Le 26, c'est un mauvais jour, parce que c'est 2 x 13. Et le vendredi, tout le monde sait qu'il est maudit à cause de la mort de notre Seigneur. Aussi, il y a à craindre quand les 13 et le 26 se rencontrent avec le vendredi. Donc, mon aïeux, du temps qu'il était gabier sur la couronne, a vu le voltigeur ce jour-là. C'était par le travers du cap de Bonne-Espérance, sous le grand Napoléon, pendant un coup de surroi à démonter un trois-ponts. La couronne fatiguait à tenir la cape sous ses basses voiles. Elle était quasiment à la merci de Dieu, que le capitaine n'invoquait point parce que c'était un mécréant. Même qu'il jura, à cause d'un mousse, qu'une vague emporta. Et au même moment, mon aïeux, qui était près de lui, vit une grande lueur par tribord devant, et il lui cria « Capitaine, capitaine, v'là un feu !» Mais c'était le feu du diable, car il leur courait dessus sous la forme d'une grande corvette qui naviguait tout haut par un temps pareil, aussi tranquille qu'un pétrel, avec de la lumière dans sa voilure, comme si elle emportait tout le soleil du matin. Alors, pour éviter le choc, le capitaine voulut arriver, il commanda « Tout le monde à son poste !» fit mettre la barre au vent et filer de l'écoute. La couronne ne gouvernait pas plus qu'une barrique et roulait à embarquer toute la mer, dré, devant la corvette qui allait la couper en deux, plein vent arrière. Mon aïeux faisait sa prière. Le capitaine était très pâle, et au moment où la corvette l'abordait, il jura de se faire moine si son navire était sauvé. Et aussi vrai que je te le dis, petit gars, le vaisseau de feu abattit sur tribord aussitôt et rangea seulement la couronne, si près que leurs vergues se heurtèrent. Il y avait sur le gaillard d'arrière un vieux, habillé d'une mode qu'on ne connaissait plus. Il rigolait dans la bourrasque et fumait sa pipe. Et tous les hommes de l'équipage étaient très vieux aussi et hurlaient comme des damnés. Parce que le voltigeur, c'est l'enfer des matelots. Mon aïeux disait qu'il avait passé comme un boulet en calmant les vagues autour de lui. Et on ne le vit pas 5 minutes. Soudain, le sifflet d'un vapeur retentit. Semelin s'interrompit court, poussa précipitamment une porte et sortit avec Piron sur la galerie extérieure en même temps que le bruit de la mer entrait d'un coup dans leurs oreilles. À 40 mètres, au-dessous d'eux, elle grouillait, animant les ténèbres d'une vie terrible. Ils se penchèrent par-dessus le parapet, le regard forcé vers le large, ébloui, puis aveuglé chaque fois que jaillissait le rayon du phare. Pour la seconde fois, la sirène meugla dans la nuit, plus près et plus longtemps. Semelin désigna du bras le point d'où partait cet appel et murmura « 2 x 13, un vendredi ». Le vent apportait les coups rythmiques d'une machine par-dessus le gargouillis des flots dans les roches. Jean-Baptiste jeta brusquement « Là, un feu rouge !» La sirène le coupa d'un hurlement désespéré, long jusqu'à l'essoufflement et sinistre dans cette obscurité sans étoiles et sans lune qui décuplait le danger. Cramponnés au parapet, les gardiens tendaient leur sens vers le gouffre où des hommes criaient. Le foyer du phare fit un tour méthodiquement et une gerbe de flammes apparut sur la mer où roula, un instant après, une explosion sourde. Puis, de nouveau, la nuit profonde, ensevelissante. « il coule, au fanot, petit gars !» Jean-Baptiste et le vieux dégringolèrent l'escalier de fonte, et quelques instants plus tard, ils couraient sur l'îlot avec une lanterne qui éclairait un rond de terrain autour de leurs sabots. « Va chercher Go !» dit Semelin. « Il sera pas de trop. Moi, je vais vers les chevaux. » Jean-Baptiste partit au pas gymnastique en butant sur le sol inégal. À la porte du sémaphore, il heurta violemment. On ouvrit presque aussitôt en demandant « De quoi qu'il y a ?» Il vit 2 jambes nues au haut des 3 marches de l'entrée et leva son fanal. C'était la Gaude, dans une grosse chemise de toile plissée au cou, et derrière elle, la chambre soudain ouverte sentait le chaud et la bête. Jean-Baptiste sourit niaisement et expliqua « C'est un navire qui a coulé dans le chenal du sud. Va y avoir du sauvetage. » Une voix grogna au fond de la pièce. « Je l'avais ben dit en entendant la sirène. » Et comme Jean-Baptiste demeurait au seuil, le fanal haut, la voix reprit. « C'est bon, on y va !» Il s'en retourna à regret. À la pointe de l'îlot, Semelin rôdait dans les roches, tendant sa petite lumière au-dessus de l'eau où elle se mirait en dansant et poussait par intervalle un long cri.
« Ohé ! Oh !»
Le froid était vif et l'embrun que le ressac lançait au visage cuisait comme une brûlure. La mer poursuivait paisiblement son grand ramage par-dessus lequel on entendait siffler des oiseaux dans la lueur du phare qui balayait régulièrement l'horizon. La nuit n'avait pas cessé d'être calme. Un autre petit feu, voltigeant sur la falaise, annonça Go, qui marchait dans les frottements de sa capote cirée.
« Il est 4 heures, dit-il. Y a flot. »
Et comme il interrogeait sur le naufrage, en émettant des hypothèses, Semelin le musela d'une réponse.
« Sauve ton homme. Il te racontera l'affaire. »
Le vieux se déployait activement. Des goémons craquaient, des cailloux roulaient sous ses galoches, et de ses yeux, faits à la nuit, il guettait les vagues du plus loin possible. Piron fouilla quelque temps de son côté, puis il escalada la falaise en disant « Je vais au phare, rapport au poids !» Rapidement, il remonta le mouvement et ressortit après avoir éteint et rangé son fanal. 5 minutes plus tard, il franchissait à tâtons le pont-levis du sémaphore, enjambait les 3 marches de la maisonnette et poussait la porte. Quelque chose tomba dans l'obscurité avec un bruit mat. Il poursuivit dans le coin droit de la pièce jusqu'à ce qu'il se heurta au lit où ses 2 bras s'abattirent et rampèrent sur les couvertures. « C'est toi, Jules ?» fit la gaude. Il ne répondit pas, mais, avertie par le souffle haletant de l'homme et ses mains fouilleuses, elle dit tranquillement « Allons, c'est ce fou de Jean-Baptiste. Va falloir encore que je te mette à la porte. » Elle ne s'émut pas davantage, sûre de sa force, de son pouvoir, et de le rendre à merci d'un mot, s'il lui plaisait. Déjà sautée du lit, elle lui échappait, tandis qu'il battait l'air dans les ténèbres. Il l'entendit buter dans les meubles et se plaindre. Une chaise cria sur le carreau, une allumette craqua. Et, tenté par les draps chauds, qui sentaient fort près de lui, il y plongea tête première et s'y vautra. La gaude reparut au seuil de la chambre voisine, protégeant de la main une bougie dont la lueur rouge bronzait son col et sa face basanée. Elle avait le bras rond, charnu, de la femme accomplie, les épaules pleines. Elle sourit sans crainte et dit « Ferme donc ta porte au moins, on gèle !» Il prit ses mots pour une invite, obéit et revint aussitôt, les mains en avant, tandis qu'elle passait une camisole. Mais elle se déroba. « Ah, bas les pattes, donc !» Et le gars soupira lamentablement. « Marie, Marie, moi qui t'aime tant que je suis tout révolutionné de toi, comme si j'avais un sort !» Alors, il dévida sa passion en phrases incertaines et pressées, la bouche pâteuse d'émotion, le cerveau troublé de désir. Quand il l'avait vue, tout à l'heure, à moitié nue, le sang ne lui avait fait qu'un tour. Et il avait fallu qu'il la retrouvât coûte que coûte, même s'il avait dû passer sur le corps de quelqu'un pour la revoir. Elle s'habillait tranquillement devant lui, insoucieuse de montrer sa chair, peut-être heureuse, car son visage, quand la bougie l'éclairait, paraissait ouvert de satisfaction. Sans doute, l'hommage violent de ce mal était bon à recevoir, et elle s'attardait dangereusement à le savourer. Mais elle tenait Jean-Baptiste à distance, esquivant toujours ses bras qu'il lançait parfois vers elle, comme un homme à la mer, aussi bien que la promesse de se donner qu'il voulait obtenir. Par la fenêtre, on vit bientôt le ciel s'engrisailler d'une aube sous nuage. Un coq claironna, et le froid du matin qui pince les endormis se glissa au joint des portes. « T'as pas peur de rencontrer Go ?» fit la jeune femme. « S'il rentrait ?» Jean-Baptiste rit en bombant le thorax avec défi. Elle admira ce gars puissant, dont les mains lui mâchaient les poignets qu'il avait saisis, d'une manière douloureuse et bonne à la fois. « Faut en aller, » reprit-elle. « V'là le jour. Pas avant que tu m'ailles embrasser. Tiens donc, grosse bête !» Elle lui tendit son cou où pesait la torsade noire des cheveux, mais il chercha ses lèvres, qu'elle détourna en riant, puis abandonna enfin, avec de la joie dans ses yeux hardis. Il quitta le sémaphore et tourna à gauche de l'enceinte, au moment où Go rentrait à droite. Go regarda cette belle carrure de mâle qui s'éloignait vers le phare, tandis que le coq chantait orgueilleusement pour la 3e fois. La mer avait reparu à l'infini autour de l'îlot, la mer mouvante, d'un vert dur et toujours calme. L'œil du phare se fermait insensiblement à mesure que le jour gagnait. Piron songea au naufrage et marcha vers la falaise. Des caisses, des barils, des planches dérivaient avec le flot. Semelin harponnait à la gaffe tout ce qui passait à portée. Une casquette, des oignons et une brosse balaient dans le clapotis aux entours des roches, tandis qu'une passerelle entière heurtait le granit à chaque vague. Les 2 hommes la hissèrent, et un nom apparut en lettres de cuivre. Ville de Royan, Bordeaux. Go télégraphia le sinistre au sémaphore de Saint-Gildas. Vers 10 heures, ils apprirent que la ville de Royan avait été abordée par un Anglais rentré depuis à Saint-Nazaire avec 7 hommes de l'équipage recueilli. Les 7 autres et le capitaine, surpris dans leur sommeil, avaient dû couler avec le navire. Semelin regarda la mer tranquille sous un soleil de printemps qui avait refoulé les nuages. Elle frissonnait joyeusement de l'échine dans la bonne lumière des premiers beaux jours, et la transparence de son eau le long des falaises découvrait l'épanouissement moelleux des chevelures qui font croire aux légendes. Il ne semblait pas possible qu'elle eût tué des hommes cette nuit et recela des cadavres. Semelin fit mettre à l'eau la yole du sémaphore où il embarqua, muni d'une bougie et d'un sabot. Gault prit les avirons et ils tournèrent l'îlot par le sud pour gagner la côte des épaves. Des sloupes de l'herbaudière louvoyaient dans la grise, chassant les fûts de vin, les caisses de biscuits, les balles de coton, les débris de gréement, tout ce qui flottait, tout ce qu'on pouvait ravir à l'océan.
« Bonne aubaine pour les frères, » dit Gault. Le bien d'autrui, tu ne prendras, » grommela le vieux.
Et comme Gault tentait de lever des casiers au passage, Semelin le gourmanda d'une voix grave.
« Les morts nous attendent !»
Ils rencontrèrent une pipe, un seau à bosse et une paillasse. À demi submergés et ballottés, les objets prenaient au loin des formes étranges et changeantes. Un simple remous révélait la barrique pleine, dont une douelle, parfois soulevée, luisait comme un dos de barre. Beaucoup d'oignons rouges boulaient dans le clapotis. De terre, Piron continuait à crocheter. Autour de lui, le soleil blanchissait les éboulis granitiques qu'atteignent seuls les marées d'équinoxe et allumait le mica qui les paillette. De l'eau, croupies dans des mares goémoneuses, tournaient au purin, croûtaient sur les bords et dégageaient une violente odeur stercorale et saumâtre, tandis qu'une multitude de crabes noirs, plats et carrés, se chauffaient sur les pierres, sous lesquelles ils disparaissaient avec un menu fracas de coquilles lorsqu'approchaient les sabots de Jean-Baptiste. L'aïole explorait la mer, sur les hauts fonds, près de l'île, où Semelin mit à l'eau le sabot et la bougie, fichés, tout allumés, droit au milieu. À peine si un papillotement roux se voyait par intervalle. Semelin récitait le pater et l'ave. Le sabot dérivait lentement sur la mer calme où il devait, Dieu aidant, marquer la place des morts. Fatigué de regarder le large où croisaient les voiles multicolores des écumeurs, Gault s'intéressa au miracle. Le sabot s'engageait entre les roches, pénétrait dans une crique de brisants et gagnait insensiblement la côte. Un cristal de 4 ou 5 mètres d'épaisseur couvrait des sablières blondes et des pelouses où l'on distinguait la marche oblique du crabe, l'éclair des mulets en fuite et les rochers perfides tapis sous des lianes. Gault poussait la yole le cul en avant, en sciant des avirons, de sorte qu'il avait toujours le sabot sous ses yeux. La bougie fondait de travers parce qu'un souffle couchait la flamme. Gault faisait le gros dos sous le soleil de cette fin de février qui commençait à chauffer. Semelin redisait un pater.
« Nom de Dieu !»
Gault avait enlevé la yole en 5 coups d'aviron, la jetait à terre, où elle monta sur une vague tandis qu'il sautait au rivage. Il escalada les éboulis, s'élança dans une coupure qui fend l'îlot en travers jusqu'à la côte ouest, où il arriva tout à bout de souffle. Piron y chargeait tranquillement une caisse sur son épaule, et la gaude s'éloignait sur la sente, là-bas, le cotillon ballant. Il aurait juré avoir vu la coiffe embrasser le béret en dépassant le gros rocher tout à l'heure. Des yeux, il chercha les traces, mais le granit n'est pas dénonciateur. Alors, il guetta Jean-Baptiste qui grimpait la falaise.
« Tu t'assommerais si tu tombais en arrière avec cette caisse, » lui dit-il sournoisement.
Jean-Baptiste s'arrêta, prit son aplomb et, la face cramoisie, riposta.
« crois-tu ?
Go ricana, inquiet et gêné à la fois. Piron montait au phare. Go vit le vieux Semelin qui ramenait l'aïeul le long de l'île. Alors, il rejoignit sa femme en courant. Elle se détourna au bruit des galoches, parut honnêtement surprise et demanda « Eh ben, avez-vous trouvé un corps ?» Go ne répondit pas et fixa ses regards sur le visage clair de Marie. Il avait envie de la battre et de l'étreindre tout à la fois. Il aurait voulu calmer sa jalousie par des gestes de châtiment et de possession, être le maître dont la malpuissance plie la femelle victorieusement. Elle marchait près de lui, tranquille, les mains sur ses hanches, la poitrine en avant. Et, comme il fut pris, aux portes du sémaphore, d'une quinte de toux qui secoua son maillot trop large en lui arrachant le sang des poumons, elle s'apitoya de manière blessante. « Mon pauvre homme, tu t'es esquinté au sauvetage. Va donc te reposer. » Mais Go ne devait plus se reposer, maintenant que l'inquiétude habitait son cœur. Il retourna sur la jetée où Semelin hissait la Norvégienne à l'aide de la grue. Pour renouer, il s'excusa un peu longuement et s'offrit à virer le treuil. Plein de ressentiment, le bonhomme l'écarta. « Va veiller ta femme et laisse la mère tranquille. » En vain plaisanta-t-il. Semelin ne prononça plus une parole et retira ses yeux si loin dans ses creuses orbites que plus rien ne vécut sur cette face stigmatisée par la mer. Les jours suivants, Go rôda par les falaises, marchant sans galoches sur des chaussons de cuir. Il tendait ses lignes sous le phare ou, partant calme, passait des heures dans les enfléchures de son mât, la jumelle à la main, dominant l'îlot entier de son regard. Le soir, il clava la porte de leur maison, qu'il n'avait point encore l'habitude de fermer, et lorsque sa femme s'en fut pêchée des patelles du côté des chevaux, il l'accompagna désormais. Les gardes-phares l'ignorèrent. Semelin n'existait plus hors le service depuis la journée du miracle interrompu. Durant les veilles, il lisait interminablement dans le paroissien romain où assemblaient des coquillages en figure simple. Piron affectait de ne pas approcher du sémaphore, mais l'après-midi, il montait à une fenêtre haute d'où il pouvait voir la Gaude vaquer autour de chez elle. Un matin, le martroger accosta la jetée du pilier. Les hommes débarquèrent les approvisionnements, le charbon, le pétrole. Il ventait sec par-dessus l'île, et des nuages tassés roulaient bas, crevant parfois en giboulées. Jean-Baptiste descendit du phare, un sac sur le dos. C'était son tour de congé. Il allait passer 10 jours à terre. Le petit sloop l'emmena sur la mer chaoteuse. Dans l'enceinte du sémaphore, la Gaude lavait son linge, les bras nus dans la mousse. Elle ne s'était pas dérangée. Go suivit la barque à perte de vue, rentra chez lui, tira du buffet un flacon d'alcool et en avala 2 grandes lampées en signe de joie.